OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 19, et versets 1 à 29. On va prendre un grand passage, mais dans le fond, j'ai arrêté là où ça peut faire partie d'un autre passage. C'est sûr qu'à l'intérieur du chapitre 19, on pourrait passer plusieurs sermons, mais on va essayer de voir l'histoire dans son ensemble, sans aller trop dans les détails. Alors, ça dit, « Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, et vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. « Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. » Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui lui appartient, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. » Parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh, non, mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré ta grandeur et ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que ne puis-je m'y sauver? N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu ne sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entrait dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était entretenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alors, je vais vous asseoir. J'ai intitulé le message de ce matin tout simplement Dieu est un juste juge. On va regarder, moi je vois trois comme divisions à l'intérieur du passage qu'on va étudier. Est un juge révélateur. Dans le verset 1 à 11, on va voir que Dieu révèle certaines choses d'abord sur lui-même, ensuite sur son serviteur et ensuite sur les gens de Sodome et de Gomorre. Deuxième idée, on va regarder que Dieu est un juge rémunérateur. On va voir qu'à cause du fait qu'il est juste, donc Dieu fait en sorte que Lot est. Il veut faire sortir Lot et toute sa famille, mais on voit par le reste de l'histoire que dans le fond, il y a juste Lot et ses deux filles qui ont été sauvées. Le reste ont péri pour toutes sortes de raisons. Et la troisième idée, on voit que Dieu est un juste rétributeur, donc il rétribue. Donc, à quelque part, les versets 24 à 29, c'est vraiment l'aspect du jugement de Dieu sur ces villes-là qui étaient sombrées. On parle là du cri, parce que quand Dieu dit le cri de Sodome et Gomorre est monté jusqu'à moi, ça veut dire que le péché de ces villes-là était rendu à son comble. Et moi, je trouve que quand on prend la peine de regarder les passages du Nouveau Testament qui nous parlent du passage de Lot, on est rendu à peu près à la même chose. Les gens font beaucoup de mal, et non seulement ils font du mal, mais ils s'en glorifient et ils en sont fiers. Et à quelque part, c'est souvent là que le moment du jugement arrive. Alors, c'est sûr que tôt ou tard, il va y avoir un grand jugement sur la terre entière, et peut-être plus particulièrement sur l'Amérique du Nord et l'Europe, où on voit que le christianisme a pris une débâcle pas à peu près. Alors, si on étudie les Écritures le moindrement de façon attentive, on va éviter de développer une notion ou une conception sentimentale et fausse du Seigneur. Et ça, c'est répandu aujourd'hui énormément autour de nous. Les gens se font une image de Dieu qui est une image selon leur propre volonté. Ils voudraient que Dieu soit comme ça. Et les Écritures nous montrent certaines caractéristiques de Dieu où on nous parle de sa bonté, mais où on nous parle aussi de sa sévérité. Les passages de sévérité, on dirait les gens, ils ne veulent plus les entendre parce que c'est quelque chose. Et si on s'en irait, disons, dans une parade de gays à Montréal ou dans une autre ville, puis qu'on leur dirait publiquement et avec une grosse voix que vous êtes sur le bord d'être jugé, que vous allez peut vous garantir, vous allez avoir des problèmes, là. Alors, mais la sévérité de Dieu, on veut d'un Dieu qui est bon, qui est bonasse, qui est genre Père Noël, il va laisser passer toutes sortes de choses. Mais c'est pas ça que les Écritures nous enseignent du tout. Qu'il nous suffise de lire Romains, chapitre 11, verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Si vous prenez l'ensemble des Écritures d'un passage à l'autre, si vous avez lu votre Bible au moins une fois, à partir du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Dieu, oui, est bon, oui, est gracieux, oui, est miséricordieux, mais oui, il est aussi sévère. Le nombre de jugements sévères que le Seigneur a fait, la terre se roule, le monde descend directement dans le Sheol. Et plein d'autres exemples, il y en a plein. Mais quelque part, aujourd'hui, on va beaucoup prêcher sur la grâce. On va beaucoup prêcher sur l'amour de Dieu. Mais on va rarement prêcher sur la sévérité de Dieu. Pourtant, les deux vont l'un avec l'autre. Alors, le chapitre 19 du livre de la Genèse est particulièrement éloquent pour nous donner une conception équilibrée de la personne de Dieu. On voit dans le chapitre 19 la bonté de Dieu, on voit la miséricorde de Dieu, on voit toutes sortes d'aspects de son côté qu'on pourrait dire positif. L'autre, c'est peut-être pas des bons mots, positif, négatif, mais on voit un autre aspect de sa personne, l'aspect de sa sévérité. Hey, prends cinq villes, donc il y en a une, il en a épargné une, tu sauras, on va voir tantôt pourquoi, tout ça, et certaines caractéristiques, où qu'elle était située, tout ça, on va voir ça tantôt. Il détruit cinq villes, quatre villes. Il va y avoir du monde, je ne sais pas exactement combien de population qu'il peut y avoir là, là. Mais c'était pas une destruction, une petite tempête, là, c'est... Hey, le feu, le soufre, apparemment, c'est une région très riche en puits de bitume. Alors, quand le feu tombait là-dedans, imaginez-vous, si on a une petite idée, à la Mégantique, quand les trains ont... Ça a dû être épouvantable, tout était brûlé, ça dit même les plantes, tout était brûlé. C'est-tu sévère ou c'est pas sévère, ça? C'est sévère. Alors, on va regarder dans la première idée que je veux examiner aujourd'hui, c'est que Dieu est un juste juge, mais il est un juge révélateur. Dans les versets 1 à 11, on va voir qu'il révèle certaines choses, mais sur trois aspects. Il révèle d'abord qui il est, lui. Alors, il va révéler son caractère à lui, le caractère de Dieu. Bien entendu, je pense que si on ne voit pas la souveraineté de Dieu, dans ce passage-là, on ne la verra jamais. Il a le droit de faire vivre et il a le droit de faire mourir à sa guise. Et là, le comble du péché de Sodome et de Gomorre est rendu à son comble. Et là, c'est le moment du jugement. Et alors, Dieu souverain qui a le droit d'enlever la vie et de punir le péché à sa guise. Et s'il y a un droit absolu sur la vie et la mort des hommes, il a le droit aussi d'épargner des méchants par amour pour les élus. Quand on lit le texte d'aplomb, là, qu'on oublie, parce que là, des fois, on parle, oui, il a voulu faire sortir toute sa famille, mais qui il s'en est vraiment sorti? Lot et ses deux filles, point final. Il était 10, on l'a vu la semaine dernière, dans notre sermon, dans la famille, il était 10, mais il y en a juste 3 qui ont été épargnés. Alors, des fois, l'Éternel épargne des méchants, parce que si les autres n'ont pas été sauvés, c'est parce qu'ils étaient des méchants. Abraham croyait qu'il était des justes. Mais il n'avait juste 3 de justes. Alors, Dieu permet des fois que, pour sauver 3 personnes, il a permis aussi que les autres sortent en même temps, mais il y en a une qui a désobéi, la femme de Lot, et les autres ont péri. Alors, on apprend ça des fois, Dieu, dans sa souveraineté, permet que certaines personnes sortent de l'endroit où ils étaient pour avoir un jugement, même si eux n'ont pas été épargnés. On va voir qu'il y a des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été épargnés. Alors, Dieu répond à la prière. On voit qu'on a un Dieu qui est bon dans le fait qu'il y a sur toute la ville, imaginez-vous, de ces grosses villes-là, il y avait 3 personnes justes dans toute cette ville-là. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Amérique du Nord, là, c'est vraiment une petite poignée de chrétiens. Le Seigneur nous dit qu'on est le sel de la terre. C'est le pourrissement de la société. Hier, il faut que je vous dise ça, il y a un chrétien que je connais, que j'ai connu dans le temps que j'étais à Condor. Hier, il m'a envoyé un email parlant de ce qu'on est en train de faire dans les écoles à travers le Canada. On est en train de leur donner des livres pour leur dire que l'homosexualité masculine, féminine, c'est correct. Mais non seulement ça, mais ils leur disent, si tu es un petit gars, mais en dedans de toi, là, si tu te sens une petite fille, il n'y a pas de problème que tu deviennes un transgenre. Ils enseignent ça dans les écoles aux primaires. En tout cas, si nous sommes intéressés, je vous enverrai la vidéo, c'est sur YouTube, là, il m'a envoyé ça. Et il dit, il faut se réveiller comme chrétien. C'est rendu les écoles publiques, là, d'un degré de pourrissement qu'on n'a aucune idée. Et les personnes qui vont enseigner à ces enfants-là, ils nous le montrent dans la vidéo, c'est des transgenres avec des chapeaux à la tête. Je vous le dis, là, quand tu regardes ça, tu fais le saut, tu dis, mon Dieu, on n'est pas en train d'enseigner ça à des enfants de 5-6 ans. Si tu sens un petit gars, puis tu es une fille, il n'y a pas de problème, on va te changer en petit gars. Puis si tu es une fille, tu es un gars, puis tu te sens une petite fille, on va te changer en petite fille. Puis il lui donne des livres. Tout le monde a des livres, puis il étudie ça. Puis... À quelque part, là, je pense que ça commence à ressembler à la situation qu'on est en train de regarder ce matin. Drôlement, je trouve. Donc, Dieu est un Dieu bon, malgré le fait qu'il a trouvé, il y avait seulement 3 justes dans ces villes-là. Il les a sauvés, Lot et ses 2 filles. Puis on va voir que même encore là, en les sauvant, ces 2 filles, la semaine prochaine, on va voir que ces 2 filles ont, loin de, ils ont été loin de se comporter comme des justes. Puis lui-même aussi, Lot. Parce qu'en saoulant, là, il se mettait dans une situation qu'il pouvait être... En tout cas, donc Dieu montre qu'il est bon. Dieu montre qu'il est juste aussi, parce que Dieu montre dans le passage que ces villes-là, quand le péché est rendu à son comble, il les détruit complètement et d'une façon très sévère. Donc, on voit que c'est un Dieu juste, un Dieu qui est sévère aussi. Les cités sont détruites par le feu et le soufre. Apparemment, moi, je n'ai pas fait beaucoup de chimie dans ma vie. Bon, quand on était au niveau secondaire, à la fin du secondaire, il nous faisait des cours de chimie. Et le feu et le soufre, là, il n'y a pas de pire combinaison. Si tu mets du feu et tu jettes du soufre là-dessus, là, ça fait pouf! C'est comme... Imaginez-vous une pluie de feu et de soufre. Ça a dû péter, mais pas à peu près. Alors Dieu est sévère. La femme de Lot, c'est sa femme quand même, c'est un juste, mais sa femme, il semble qu'elle n'était pas une juste. Elle était mariée avec un juste. Et elle devait avoir une vie qui ressemblait à un juste. Mais Dieu lui avait dit, les anges lui avaient dit, « Ne te tourne pas de bord. » Et elle le fait. À quelque part, elle a eu un jugement extrêmement sévère. Alors Dieu est sévère. Dieu est sage aussi. Parce que si on prenait la peine d'étudier les mots, par exemple, Sodome, ça veut dire brûlant. Alors, ils brûlaient dans leurs appétits sexuels, mais pas juste entre hommes et femmes. Pour eux, on parle du passage, on parle des jeunes, des enfants, jusqu'aux vieillards. Toutes les villes étaient rendues qu'il y avait des étrangers qui étaient réfugiés chez Lot, et ils voulaient les connaître. Dans les Écritures, le mot « connaître » veut dire la volonté d'avoir des relations sexuelles avec eux. Puis quand on parle des enfants jusqu'aux adultes, tu n'es pas rendu pourri à peu près, là. Tu es rendu pourri beaucoup. À quelque part aussi, on a la sagesse de Dieu dans le fait que si on regarde la vie de Lot, qu'est-ce que Lot a fait depuis qu'on connaît son histoire dans les Écritures? Il a fait le mauvais choix. Et là, Dieu permet. Il a fait le choix de... la facilité, la richesse, j'aurais pas de trouble, il y a de l'eau en main, je peux le boire. Il a juste regardé avec ses yeux pour satisfaire ses sens. Et qu'est-ce que Dieu a permis? Parce qu'attends, la semaine prochaine, on va voir que non seulement les villes ont toutes été détruites, mais là, il avait peur de rester dans Tsoar. Pourquoi il s'est en allé dans une caverne? C'est parce qu'il avait peur que les gens de Tsoar, qui était un village qui aurait dû être détruit, une ville qui aurait dû être détruite, elle aussi, quand ces gens-là se sont rendus compte, la ville était détruite, puis c'est à cause d'eux. Il a eu peur que la ville se retourne contre lui, puis est allé se cacher dans une caverne avec ses enfants. Alors, les mauvais choix ont fait en sorte qu'il a voulu choisir l'abondance, et il s'est ramassé dans la pauvreté absolue avec ses 2 filles dans une caverne. On voit aussi la fidélité de Dieu qui... Dieu, moi, ce qui est le fun dans les Écritures, c'est que peu importe le personnage, prenez Abraham, Dieu va nous montrer ses faiblesses. Prenez David, Dieu va nous montrer ses forces, Dieu va nous montrer ses faiblesses. Dieu est fidèle, même si c'est ses enfants, quand un juste pêche, Dieu le dit dans les Écritures. Ce n'est pas une question de vouloir montrer, il est juste, puis il est parfait, puis non. Il nous montre aussi que ces gens-là avaient des problèmes aussi. Donc, on le voit là-dedans, Lot avait des difficultés. Les anges ont été obligés d'aller le chercher par la main. Ils disaient, sors, sors! Ils ne sortaient pas, ils avaient peur, ils pensaient que c'était des petits gens, ils pensaient qu'ils faisaient des farces. Ils ont été obligés d'aller le chercher par la main. Ce n'est pas un signe de trop grande, tu sais, de spiritualité saine et sainte, là. Quand tu es obligé que les gens te disent c'est des anges, puis ils savaient que c'était des êtres spirituels qui venaient l'avertir d'un jugement imminent. On aurait dit que ça sortait. Lui-même, Lot, qui était le juste, on voit que Dieu n'a pas peur de nous montrer les faiblesses des justes. Et ça révèle un aspect de son caractère qui est la fidélité. J'en ai sorti quelques-uns, des aspects qu'on voit dans le texte du chapitre 19, mais sans doute il y en a d'autres. Donc Dieu, à l'intérieur de ce passage-là, se révèle lui-même dans des aspects que nous, on est bien contents que Dieu soit comme ça, mais des aspects aussi que Dieu... On est moins content d'entendre parler que Dieu va détruire. Puis quand on pense que des fois, si Dieu amenait ça là, on a des enfants, nous autres. Puis parfois, ils ne sont pas sauvés encore. Fait que moi, le jugement, là, je prie pas pour qu'il arrive rapidement. Je prie pour que le Seigneur ait de la miséricorde pour ceux qu'on aime, qui sont pas encore, qui n'ont pas encore reçu la miséricorde de Dieu. Donc, Dieu se révèle lui-même à l'intérieur du passage. Une autre chose qu'il révèle, il révèle le caractère des hommes justes. On voit qu'à l'intérieur du texte, même s'il y a des passages, des idées qui nous disent certaines choses de Lot qui ne sont pas très agréables à entendre, il nous dit quand même que Lot faisait des choses correctes, dont sa faiblesse. C'est les points négatifs. Donc, Dieu nous montre les points négatifs, puis il va nous montrer les points positifs aussi. Son inconscience. Quand des êtres surnaturels viennent te dire, sors de là, puis ça presse, puis ça emmène ta famille, puis ils sont obligés de venir te chauffer par la main, oh, ça va pas bien. Ça veut dire que tu es inconscient, tu es mondain. Une des raisons pour lesquelles il s'est ramassé là, lui, c'est la mondanité. S'il avait resté avec son oncle Abraham, ça n'aurait pas arrivé. Après ça, la convoitise, c'est qu'est-ce qui fait qu'il a voulu avoir toutes ces affaires-là, son bétail, toute terrestre, la désobéissance aussi, et l'incrédulité. Quand Dieu dit sort, ça presse, on veut détruire la ville, Dieu nous a envoyé détruire la ville, tu es obligé de quasiment plaidoyer avec lui. Ça ne montre pas des points forts de Lot. Galates 6, versets 7 et 8. Parce qu'il faut faire des applications avec nous autres aussi là-dedans. Là. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Maintenant, on va regarder les points positifs qui, à l'intérieur du passage, le Seigneur souligne que, malgré tout, l'homme juste qui est Lot avait quand même des qualités. Il nous montre par exemple son hospitalité. Il voit des gens sur la place publique et plutôt que de le laisser passer la nuit dans la rue, il leur dit, venez chez moi. Alors pour eux, les gens de cette époque-là, l'hospitalité, c'était sacré. Donc il y a le respect des étrangers, il y a la volonté de les protéger parce que connaissant ce qui se passe autour de lui. Il savait très bien que c'était une ville pourrie, une ville de corrompus, une ville de pervers. Alors, il savait très bien que s'il les laissait dans la rue, il y avait un risque à ça. Et il a voulu les protéger. Et il a voulu aussi avoir de la communion avec eux parce qu'il les a fait entrer, puis il les a fait manger. Il a fait même un festin. C'est un repas qui sort de l'ordinaire. Après ça, une autre chose, c'est qu'il a manifesté de la générosité dans le sens du festin. Et la perspicacité, des fois, on ne s'arrête pas le mot pain sans levain. Dans les Écritures, le mot pain sans levain représente, on parle souvent de la communion, le corps de Christ, c'est comme un pain sans levain. Le levain, dans les Écritures, c'est souvent le symbole du mal. Donc, le fait que. C'est tous des petits détails que quand on s'arrête puis qu'on fait le lien avec d'autres passages qui parlent du même sujet, des pains sans levain. Il a servi des pains sans levain. Et le courage aussi, parce que quand ils ont entouré la maison, puis ils commençaient à vouloir les menacer, on fallait sortir ces deux hommes-là, on veut les connaître. les connaître dans le sens les violer. Il a quand même été courageux. Mais il a quand même eu une mauvaise compréhension en leur donnant sa fille, ses deux filles. Il dit, violez pas les lois de l'hospitalité, parce que dans cette partie-là du monde, l'hospitalité, c'est d'une importance capitale. Il aimait mieux donner ses deux filles que de violer les lois de l'hospitalité. Ça nous donne-tu une idée jusqu'à quel point les lois de l'hospitalité orientale, c'est élevé? Mais tu ne corriges jamais un péché par un autre péché. S'il a voulu empêcher un péché, puis tu donnes tes deux filles à la place, à une foule de pervers de même. Alors, quelque part, ça montre qu'il manquait de jugement. Et la bienveillance, aussi, on voit son côté bienveillant quand il dit « Je vous prie, ne faites pas de mal. » Il était conscient qu'il s'apprêtait à faire beaucoup de mal et il essaye de calmer le jeu, comme on dit. Et il y a vraiment un respect des lois sacrées de l'hospitalité. Maintenant, on a parlé que Dieu se révèle lui-même, Dieu révèle le caractère de son élu, à la fois sur les côtés positifs et à la fois sur les côtés négatifs, mais aussi il parle du caractère des hommes méchants de ces villes-là. Universalité de la méchanceté. Jeunes, vieillards et toute la population. Et pas des farces, là. Quand tu penses qu'il y a deux hommes qui étaient dans une maison et que toute la population, y compris les enfants, viennent pour assister au spectacle, comme on dit, à quelque part, ils étaient rendus loin. Alors, l'universalité de la méchanceté. Il y a aussi vraiment la question de l'homosexualité qui est proclamée sans honte. Donc, il y avait l'idée de violer. Il y avait l'idée d'orgie. Ça revirait en orgie, c'est sûr. Il n'y aura pas juste connu les deux hommes. Là. Après ça, ça serait existé entre eux autres. Ça aurait été la grosse orgie. Et la violence potentielle aussi, parce qu'ils disent, si tu ne t'enlèves pas de là, d'autres, on va te faire pique à eux. À quelque part, il y a beaucoup de péchés qui sont révélés à l'intérieur de ça. L'homosexualité qui est proclamée sans honte. Est-ce qu'on fait un lien avec aujourd'hui?
Oui.
Exactement. L'insolence aussi de ces hommes-là, leur rébellion et la violence à la fois contre la personne et contre la propriété. Ils voulaient défoncer à la porte. Alors, c'est à quelque part, ça n'allait pas bien. Hein? Et leur entêtement aussi, même après que le Seigneur a permis qu'ils soient aveuglés, qu'ils ne puissent plus trouver le chemin de la porte, ils cherchaient quand même. On voit l'entêtement et l'incorrigibilité de ces gens-là. Deuxième idée qu'on va regarder, c'est un juge rémunérateur, à partir du verset 12 à 23. Alors, on a vraiment le moyen de la grâce. Dieu permet qu'un certain groupe, il a voulu que ça soit toute la famille, mais on a vu à la fin que ça va être juste lui et ses deux filles. Et les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Fais sortir du lieu Jean, fils et filles, et tout ce que tu as dans la ville, car nous allons détruire cette ville. » Pourquoi Dieu a permis? Moi, je pense que Dieu veut montrer sa bonté. Malgré le fait que ces gens-là ne méritaient pas d'être sauvés, Dieu permet que lorsque Lot sort avec ses deux filles, il invite toute sa famille à sortir avec lui. Mais eux n'ont pas profité de la... Parce que ça dit, car leur cri est grand devant la face de l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu-ci, car l'Éternel va détruire la ville. Et il fut vieux de ses gendres comme s'il riait. Imaginez-vous. S'imaginez que c'était une joke. Une grosse farce. Et comme l'aurore se levait, les anges le pressèrent Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses à cause de l'iniquité de la ville. » Il différait, autrement dit, il se traînait les pattes. Et ces hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses deux filles, à cause de la pitié de l'Éternel envers lui, et ils le firent sortir et le déposèrent hors de la ville. Alors, on voit dans le verset 12 la révélation, Dieu, il y a une invitation à sauver des personnes, gendre, fils, fille, c'est bien. Alors, la générosité de Dieu, il dit non seulement tous ces gens-là, mais avec tout ce que tu as dans la ville. Autrement dit, c'est bien. cherchait à protéger même ses biens. Et là, il leur dit pourquoi? Parce que Dieu nous a envoyés pour détruire la ville. Et Dieu a quand même la bonté d'épargner sa famille, malgré l'endurcissement qu'on va voir chez son épouse et d'autres. Et l'insistance aussi. C'est vraiment, il y a quelque chose de honteux là-dedans, de regarder que quelqu'un qui était sauvé avait autant de lenteur à croire et autant de lenteur à obéir. Dieu dit, décolle de là. Si Dieu nous disait, nous autres, depuis matin, sortez d'ici, parce que dans 5 minutes, dans 2 minutes, le toit va vous tomber sur la tête, j'espère qu'on ne restera pas assis. Hein? Ben, c'était un peu ça qui se passait. Dieu l'avertissait, puis il restait quand même là. Mais ce qu'on voit dans le verset 16, le côté patient, le côté de la pitié divine et de la pression, Dieu vient chercher par la main. Quand ça dit Dieu avait l'idée de les sauver. Moi, c'est un passage qui est très riche. Malgré, dans le verset 17 à 20, Dieu va leur montrer la direction. Autrement dit, comment agir si vous sortez. Après avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non, mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, je périrai. » Encore une autre faiblesse. Il n'y a pas la capacité de Dieu de le protéger, malgré... Lui, il disait, j'aurais jamais le temps de me rendre. Et... Fie-toi sur Dieu. Si Dieu dit, sors, puis tu t'occuperas du reste une autre fois. Il dit, voici, cette ville est assez proche pour que je me réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Autrement dit, c'est une ville de pourri, mais laisse-moi le temps de me rendre là, elle est petite. Il devait avoir encore l'idée de ce qui va se passer après. Je vais pouvoir me réinstaller. Puis... C'était pas brillant, disons, de la part de Lot. C'est pas un passage qui nous... Alors, le Seigneur leur donne quand même les directives, malgré leur effronterie, leur étourderie, leur incorrigibilité. Le Seigneur... C'est drôle de voir un enfant de Dieu que Dieu lui dit, « Sors, ça presse. » « Oh non, mon Seigneur! » Tu discutes avec le Seigneur. C'est pas fort, là. C'est un passage qui nous révèle des côtés de nous. Parce que nous aussi, on a cette tendance-là. Alors, on voit que là-dedans, notre ami Lot a un esprit de compromis et un esprit d'abus de la grâce. Ça aussi, c'est un aspect que... Parce qu'il parle d'un juste. Ça veut dire que nous aussi, on a ces tendances-là. Dieu ne nous montre pas ça pour rien. Là. Dieu nous montre ça parce qu'on a tendance, nous aussi, à être comme lui. Et le verset 21 à 23, c'est vraiment le moyen de l'amour. Dieu permet qu'à quelque part, il soit sauvé. Et le verset 21 est bon parce qu'il lui dit, « Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. » Il ne détruit pas, parce que je vais le temps de me rendre là, il ne détruit pas la ville, la tsoar, la petite. N'est-elle pas petite? Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Les anges étaient conscients qu'ils ne pouvaient rien faire parce que la volonté de Dieu, c'est que tu épargnes ses enfants. Malgré leur indignité, malgré leurs problèmes, malgré leurs faiblesses. Et c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui veut dire petite. Et le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. L'amour démesuré de Dieu, je t'accorde encore cette grâce. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu, c'est des grâces par-dessus grâces. Ça le dit comme ça dit souvent dans les Écritures, grâce sur grâce. On reçoit grâce sur grâce. C'est pas toujours parce qu'on les mérite, là. Une grâce, c'est, par définition, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Et le troisième point qu'on va regarder, c'est le juge rétributeur, versets 24 et 29. Là, le jugement s'exécute. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Les Écritures, parce qu'il y en a qui ont commencé à faire écrire des commentaires sur ce passage-là. Et ils ont dit, oh, ça devait être une catastrophe naturelle qu'il y a eu, parce qu'il y avait des puits de pétrole, il y a probablement eu une tempête. Ils essayent toujours, les gens qui ne sont pas des chrétiens, qui essayent, qui étudient les Écritures, cherchent toujours à enlever le côté surnaturel. Les Écritures veulent nous assurer que ça venait de la part de l'Éternel, parce que verset 24 dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir. » Et ça termine que tout cela venait de par l'Éternel. Alors, il y avait des puits de pétrole, ça n'empêche pas que c'est l'Éternel qui a mis à flamèche, comme on dit. Il détruisit ses villes, toute la plaine, et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, portant ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Si on pense qu'on a vu de quoi ici à Lac-Mégantic, là, j'ai juste vu des films, là. C'était terrorisant, là. Le monde pensait que c'était la fin du monde. Plusieurs, on entendait des commentaires des gens qui ont filmé ça. C'est une petite affaire comparativement à ce qu'on était en train de lire. C'était beaucoup plus gros que ça. Imaginez-vous Abraham qui voyait ça. Ça devait être épouvantablement terrorisant. Verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait été. La fin, je n'avais jamais remarqué. J'ai lu ça dans les commentaires. Je trouvais ça intéressant. La ville de Tsoar, supposément, que si tu la situes par rapport aux autres villes, elle était au centre. Dieu permet que les villes autour soient brûlées au ras, puis la petite ville au centre est épargnée. À quelque part, je pense que ça vient nous montrer que Dieu est le contrôle, est capable de produire un cataclysme épouvantable sur un paquet de villes autour, puis est capable d'épargner une petite ville au milieu. Parce que, pourquoi il l'a épargné? Pas parce qu'il n'était pas méchant, les gens de Tsoar étaient aussi méchants que Sodome et Gomorrhe, mais à cause qu'il y avait deux, trois des justes qui étaient là. Et Dieu les épargne à cause de ça. Donc, il y a vraiment une destruction massive. Là, on parlait souvent de destruction massive, là, à un moment donné, à la télévision, dans les autres pays. Là, mais là, on parle vraiment d'une destruction massive. Éternel lui-même fait pleuvoir du feu, du soufre et du feu. Apparemment, c'est terrible, le feu et le soufre ensemble, ça produit des effets terrorisants. Alors, la sévérité du jugement est exprimée dans le verset 25, mais on a aussi un passage dans Deutéronome 29, verset 23, qui parle de cela. Il dit « À la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semences, ni produits, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm. » On vient de savoir les quatre noms des quatre villes qui ont été détruites. Il y aurait dû en avoir cinq, mais une qui a été épargnée à cause que Lot était là. Que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Le mot « colère », ça nous dit quelque chose. Hein? Mais quand on dit « fureur », c'est puissant. Alors, le Seigneur, dans le verset 26, nous montre qu'il y a un jugement de la désobéissance. La femme de Lot, c'est pas parce qu'elle ne savait pas qu'il ne fallait pas se retourner de bord. Mais il y a tout un symbolisme là-dedans. Le juste qui Dieu donne la chance qu'il te sorte d'une mauvaise situation. Et il y a toute l'idée de la mondanité. Tu te retournes en arrière. Tu regardes en arrière. Tu veux... ça te manque déjà, là. Alors, Dieu l'a fait tourner en statut de sel. Intéressant de faire un parallèle avec ce que les Écritures nous disent du passage de Lot. Luc 17, versets 32 et 33. La personne qui m'a envoyé le petit vidéo, justement, il m'a dit, il me citait ce verset-là, Luc 17, verset 32. 28 à 33. « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » Écoutez bien le verset 30. « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne plus, ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme. Des avertissements, c'est dans le Nouveau Testament, là, on n'est pas dans Genèse, là. Le Seigneur, il dit, quand ça va arriver, nous aussi, un jour, les villes, ils vont connaître des jugements. Ne retournons pas en arrière. Ne faisons pas l'erreur de regretter ces choses-là. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot, verset 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 9, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, et s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et préserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et versets 27 à 29, Abraham se leva de bon matin. Alors, on a l'idée que Abraham, Dieu a attendu le jour, la lumière, pour que le jugement se fasse à la lumière. Parce que ça dit bien, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorre et surtout sur le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre. Une fumée, ça devait être terrorisant, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alors, on a vraiment la bonne attitude d'Abraham. Il savait que Dieu était pour amener le jugement. Il s'en vient comme voir, comme pour constater que Dieu accomplissait ce qu'il avait dit. Alors, le fait que Tsoar était géographiquement au milieu des villes détruites, moi, je trouve ça, que Dieu est capable de dire, quand je vais y détruire les autres, juste parce qu'il y a comme une image de la puissance de Dieu là-dedans pour montrer que Dieu est capable de détruire autour sans détruire au milieu. Parce que ses élus étaient là. Et on va terminer avec Jude, chapitre 1, verset 5 à 8. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Alors, on voit que les Écritures les citent à plusieurs endroits. On a dans Jude, on a dans 2 Pierre, on a dans Matthieu, plusieurs endroits où le Seigneur vient nous rappeler tout ce grand jugement qu'il avait eu, et il nous dit que c'est pour donner des exemples, pour avertir. Si je l'ai fait dans le passé, je vais le faire encore dans l'avenir. On est rendu à mettre des applications. Rappelons-nous que l'Éternel est un juge. Dieu est patient. Cependant, il juge toujours. Il juge les méchants. Il le fait d'une façon sévère, irrémédiable. Ce n'est pas un avertissement, là. Brûlé. Il le fait de façon puissante. Il le fait de façon démonstrative, parce que pour que ça soit visible. Et il le fait de façon sage et juste. Et aussi, Dieu est un juge pour les élus. Il juge, dans le fond, la famille de Lot. Alors, le Seigneur révèle les faiblesses des croyants. Son jugement est toujours cependant miséricordieux et rigoureux et correctif, dans le but d'amener des changements, des corrections dans la vie de ces gens-là. Le péché, dans les Écritures, quand on voit des péchés des saints, des élus, qui sont graves, le Seigneur nous montre que les peines temporelles qui sont reliées au péché ne sont jamais enlevées. Comme lui, là, il a fait des méchantes bêtises, là. Mais les peines temporelles, on va voir que ça va aller beaucoup plus loin que ça. À cause du fait qu'il va recoucher avec ses deux filles, il va avoir deux nations qui vont sortir de ça, les Ammonites et les... Les Moabites. Alors, on sait que les Ammonites et les Moabites ont été des tribus, des nations qui ont fait beaucoup de problèmes de violence avec Israël. Alors, on voit que les péchés, ça vient jamais seul et ça se répercute sur du long temps. Il y a des leçons à tenir pour ça, pour nous, là. Alors, parfois, les peines temporelles dues au péché sont de longue durée et de façon honteuse. Deuxième application, apprenons les erreurs de Lot. La mondanité et l'incrédulité sont de bien mauvais choix. Soyons assurés de cette vérité. Nous récolterons ce que nous semons. Et troisième application, imitons Abraham, sa foi et son esprit de prière. Que notre grand Dieu et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen. Amen.